Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, l'espoir autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé s'être entendu avec le sultanat d'Oman pour définir un nouvel itinéraire de passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Quel rôle les réseaux sociaux ont-ils joué dans la crise migratoire de Ceuta? D'après les experts, une campagne de désinformation a largement contribué au drame qui a fait près de 80 morts. La colère des Franciliens grandit cet été face à l'interruption massive de plusieurs axes majeurs de transport. L'offre de substitution reste, selon le maire de Saint-Denis, en deçà des attentes, ce qui exacerbe le malaise. Bonjour. Israël a mené la nuit dernière de nouvelles frappes contre plusieurs localités du sud du Liban au lendemain de l'annonce de la mort de 2 soldats israéliens dans cette région. Selon les autorités libanaises, ces bombardements ont fait au moins 4 blessés après une frappe qui a déjà coûté la vie à une personne mercredi. Cette nouvelle escalade intervient alors que le Liban et Israël suivent à Rome un 7e cycle de négociations directes sous médiation américaine sur fond de désaccords persistants concernant le désarmement du Hezbollah. Israël affirme ne pas avoir accepté la feuille de route soutenue par Washington pour Gaza malgré les garanties américaines d'un retrait israélien conditionné au désarmement complet du Hamas. De son côté, le Hamas assure avoir approuvé ce plan et appelle les États-Unis à faire pression sur Israël pour qu'il en respecte les termes. Un timide espoir de détente au Moyen-Orient. L'Iran annonce avoir trouvé un accord avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de navigation dans le détroit d'Ormuz. Point de passage stratégique au cœur des tensions avec Washington. Une avancée, Inès Gilles, qui pourrait ouvrir la voie à une reprise du dialogue.
Et oui, les coordonnées géographiques du tracé envisagé ont été approuvées. C'est ce qu'a indiqué Esmaël Barahi, le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'Iran et Oman travaillent désormais à une déclaration conjointe. Alors, que prévoit cet accord préliminaire? Eh bien, tout transport maritime qui entre par le détroit en emprunterait une voie nord dans les eaux iraniennes et tout navire sortant suivrait une trajectoire dans les eaux contrôlées par Oman au sud. La voie médiane qui était utilisée avant le conflit, désormais impraticable, serait déminée dans un délai de 60 jours, le tout sans péage ou droit de passage. Alors cet accord donne d'ores et déjà espoir d'une sortie de conflit avec les États-Unis. Les bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi et le Pakistan, pays médiateur dans les négociations irano-américaines sur le protocole d'accord, espère que cette avancée diplomatique amènera les États-Unis et l'Iran à reprendre leur pourparlers. Car la réouverture du détroit d'Ormuz ne pourra pas se faire sans l'aval américain. L'Iran n'a pas manqué de le rappeler par la voix d'Esmaël Barahi. Les facteurs rendant le détroit d'Ormuz peu sûr existent toujours du côté des États-Unis, a-t-il affirmé. Le porte-parole de la diplomatie iranienne fait bien sûr référence au blocus imposé par Washington sur les ports iraniens. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas réagi, mais on peut d'ores et déjà dire que l'accord entre l'Iran et Oman ne sert pas les intérêts de Washington, puisqu'il permettrait à Téhéran de renforcer son contrôle sur ses eaux très stratégiques.
Merci Inès pour tous ces détails. Et selon deux responsables régionaux cités par l'agence France-Presse, l'Iran a menacé de frapper les infrastructures énergétiques des pays du Golfe et a transmis une liste de cibles aux médiateurs avant l'arrêt des hostilités. Ces menaces auraient conduit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar à intervenir auprès de Donald Trump pour éviter une nouvelle escalade militaire. Le Koweït a ordonné la fermeture d'une école iranienne et suspendu les nouvelles inscriptions pour la prochaine rentrée, selon une source du ministère de l'Éducation. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions régionales après plusieurs attaques iraniennes ayant visé le Koweït durant la guerre au Moyen-Orient. Le Pakistan impose de nouvelles restrictions aux médias internationaux qui devront désormais enregistrer leurs journalistes et obtenir une autorisation pour tout reportage en dehors d'Islamabad, Lahore et Karachi. Des organisations de défense de la presse dénoncent une atteinte à la liberté d'informer dans un pays classé 153e sur 180 par Reporters sans frontières. Comment une simple rumeur a-t-elle pu provoquer l'une des plus importantes crises migratoires de l'histoire de Ceuta? Selon plusieurs experts, une campagne de désinformation relayée sur les réseaux sociaux a largement contribué à l'afflux de dizaines de milliers de migrants vers l'enclave espagnole, avec un lourd bilan humain, Nawal El Amouchi.
Et oui, Nadia, vous l'avez dit, à l'origine de cette crise migratoire, il y a une fausse information devenue virale. La frontière de Ceuta est ouverte. Cette rumeur a été diffusée massivement sur les réseaux sociaux à la fin du mois de juillet et elle a poussé près de 72 000 migrants venus du Maroc à tenter de rejoindre l'enclave espagnole, souvent par la mer au péril de leur vie. Cette intox, elle repose sur une mauvaise interprétation d'une décision du tribunal suprême espagnol concernant les migrants interceptés en mer. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a dénoncé une rumeur alimentée par les réseau de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Et selon un rapport d'un chercheur de l'université de Murcie en Espagne, cette campagne de désinformation a été vue près de 11 millions de fois. Des spécialistes évoquent aussi la diffusion de messages par des comptes difficiles à identifier, ce qui soulève des interrogations sur un possible recours à des outils automatisés pour amplifier leur propagation. Cette crise migratoire à Ceuta est avant tout un drame humain, avec un bilan particulièrement lourd. Au moins 78 personnes ont perdu la vie, principalement par noyade. Selon les autorités espagnoles, près de 70 000 migrants sont déjà retournés au Maroc. De leur côté, les autorités marocaines font état de 11 morts sur leur territoire. Les experts redoutent maintenant un nouveau scénario. D'autres messages circulent déjà sur les réseaux sociaux, annonçant de nouvelles arrivées massives. Et ils pointent la responsabilité des plateformes accusées de ne pas avoir réagi suffisamment vite pour freiner la propagation de ces fausses informations.
Merci Nawal pour ces précisions. En France, la gendarmerie lance l'opération Nemus avec plus de 330 militaires déployés dans les massifs forestiers les plus exposés afin de prévenir les départs de feu et protéger les populations. Patrouilles, contrôles, hélicoptères équipés de caméras thermiques et drones sont mobilisés pour détecter rapidement les incendies et leurs auteurs. Le député LR Yannick Neuder propose de taxer les industriels du tabac pour financer le reboisement et les moyens de lutte contre les incendies. Il invoque la responsabilité des mégots dans de nombreux départs de feu. L'industrie du tabac rejette cette idée, tandis que le Comité national contre le tabagisme soutient une application du principe du pollueur-payeur. La Russie dénonce une persécution politique après la décision de la France d'expulser la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova, accusée par Paris de relayer des campagnes de désinformation russe. Moscou évoque une atteinte à la liberté d'expression, tandis que les autorités françaises estiment qu'elle contribue à des opérations de déstabilisation. Un homme de 53 ans a été condamné à 5 ans de prison à Mulhouse pour détention en récidive de centaines de milliers d'images et vidéos pédopornographiques. Déjà condamné en 2022, il écope également d'un suivi socio-judiciaire de 6 ans et d'une interdiction définitive d'exercer toute activité en lien avec des mineurs. En Île-de-France, l'été 2026 se vire au casse-tête pour les voyageurs. Fermeture de lignes, interruptions et chantiers se multiplient. La Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée alors que ses habitants sont parmi les plus dépendants des transports en commun. Le maire de cette commune estime que l'offre de substitution reste en deçà des attentes. Peut-on parler d'inégalité territoriale? La réponse avec Céline Malaisé, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du groupe gauche communiste, écologiste et citoyenne. On l'écoute.
Le maire de Saint-Denis a raison de dire que l'offre de substitution n'est pas à la hauteur. Il a aussi raison de pointer la responsabilité politique d'Île-de-France Mobilité. C'est quand même une interrogation sur la question de comment on peut planifier des travaux sur le RER B, sur le RERD, sur la ligne 13 et sur le T1 en même temps. en ne prenant pas en compte le fait que ça va finalement empêcher une grande partie des habitants de la Seine-Saint-Denis de pouvoir se déplacer correctement. Donc il a raison de demander une réunion de crise. Quand on planifie des travaux, quand on est autorité organisatrice comme Île-de-France Mobilité, on doit aussi bien voir qu'il y a des territoires qui sont avec des populations beaucoup plus dépendantes des transports en commun que dans d'autres territoires, ce qui est le cas de la Seine-Saint-Denis. Les habitants de la Seine-Saint-Denis se déplacent en transport en commun, ce qui est bon pour la planète, mais il faut qu'ils puissent se déplacer en transport en commun. Et donc, cette réunion de crise me semble indispensable.
Est-ce que vous y voyez une forme d'injustice territoriale, le fait que certains départements soient plus touchés par ces arrêts, par ces interruptions?
Il y a une injustice territoriale dès qu'on habite sur une ligne de RER ou de Transilien. Quel que soit le moment de l'année, vous pouvez parler à des usagers du RERC et ils vont vous expliquer qu'ils sont assignés à résidence et qu'ils ne peuvent pas sortir le soir. Là, pour cet été, il y a une injustice territoriale qui est très marquée pour les habitants de la Seine-Saint-Denis et notamment du nord de la Seine-Saint-Denis. Voilà, il aurait été préférable, évidemment, de faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes plages où les travaux se déroulent en même temps, pour faire en sorte finalement d'avoir des transports de substitution qui soient des transports de masse et non pas seulement des bus qui ne sont pas suffisants. Donc oui, il y a pour les habitants de la Petite Couronne et de la Grande Couronne de manière permanente une certaine forme d'injustice vis-à-vis de l'accès aux transports. Cet été, ça se concentre essentiellement sur le nord de la Seine-Saint-Denis, c'est tout à fait juste.
Céline Malaisé, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Elle est l'invitée de Nawal El Amouchi dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Un mot de sport pour finir. Mohamed Salah quitte Liverpool après 9 saisons et s'engage pour 2 ans avec Trabzonspor où il percevra un salaire record pour le championnat turc. L'attaquant égyptien de 34 ans espère désormais aider le club turc à briller en championnat et sur la scène européenne. C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 17h30 avec Mazen Hamoud. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.